Les matins de France Culture.
Avec la revue de presse internationale de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour Guillaume.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, veut changer le monde. Et puis, d'abord, il va commencer par changer son propre pays, en tout cas essayer de le faire.
Oui, une Arabie Saoudite qu'il bouscule depuis qu'il y a pris de facto la tête du pouvoir exécutif en moins de 2 ans. MBS, comme on le surnomme, à 32 ans. Et il livre dans une interview au Guardian britannique sa vision pour un royaume dont il n'est pas encore le roi, mais qu'il s'engage à ramener vers un islam plus modéré. L'Arabie saoudite de ces 30 dernières années, dit-il, fonctionnait sur une doctrine ultra-conservatrice qui n'était pas l'Arabie saoudite. Rien de normal à ces règles rigoristes qui n'étaient, selon MBS, qu'une réaction, une copie sans inspiration de la révolution islamiste en Iran. Alors aujourd'hui, le prince héritier veut déwahhabiser l'Arabie saoudite, revenir à un islam ouvert sur le monde et sur les autres religions, tourné surtout vers sa jeunesse qui compose 70% de la population saoudienne. En faisant cela, nous explique le gardien, MBS veut consolider son autorité, mettre sur la touche le clergé wahhabite qui ne l'a jamais vraiment soutenu et puis asseoir la loyauté de l'appareil administratif saoudien. Reste à savoir tout de même si le grand changement va prendre dans une Arabie saoudite qui reste profondément conservatrice et qui pourrait refuser cette révolution culturelle qui lui est imposée à l'horizon 2030. Pour convaincre, le prince héritier Ben Salman cherche aussi des soutiens internationaux. Il adosse sa révolution culturelle à un programme économique monumental, plus de 500 milliards de dollars d'investissement dans le pays, dans la région, et plus largement encore, il s'agit, c'est vrai, de changer le monde. Le fonds souverain saoudien, la manne pétrolière, est mobilisé pour changer donc ce monde avec la vision de MBS, et cela passe aussi, comme nous le rappelle le site d'info saoudien Middle East, par un partenariat avec le fonds d'investissement américain Blackstone. On retrouve là en fait un engagement pris avec Donald Trump, quand ce dernier avait effectué l'une de ses premières visites officielles à Riyad au printemps. Les 20 milliards de dollars confiés à Blackstone doivent servir à financer des grands travaux chers à Trump aux États-Unis.
Et tout cela, Camille, ne doit pas nous faire oublier que l'Arabie saoudite mène au Yémen une guerre dans laquelle elle est empêtrée depuis près de 3 ans.
Et c'est le Boston Globe qui se charge de nous le rappeler. Une guerre sans fin que celle menée par Riyad contre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran. Pour résumer, c'est le pays le plus riche de la région qui bombarde sans discontinuer le plus pauvre du Moyen-Orient. C'est aussi et surtout la plus grave crise humanitaire au monde en ce moment, selon l'ONU. Un enfant qui meurt toutes les 10 minutes de cause que l'on sait très bien soigner ailleurs. Au Yémen, la famine fait rage. Le choléra pourrait toucher 1 million de personnes d'ici à la fin de l'année. Et cette guerre, elle ne pourrait exister sans l'appui américain, affirme Stephen Kinzer dans le Boston Globe. Les avions et missiles saoudiens ont été vendus et fabriqués par des Américains et des Français. Ça, c'est moi qui le rajoute. Les services de renseignement américains aident leurs collègues saoudiens à choisir leurs cibles. Et ce sont des ravitailleurs en vol américains qui permettent aux bombardiers de Riyad de multiplier les frappes sans discontinuer, sans parler du soutien diplomatique de Washington qui, à l'ONU, empêche toute condamnation de l'Arabie saoudite. Et voilà donc tout l'enjeu de cette résolution proposée au Congrès américain et qui veut sortir, une bonne fois pour toutes, les États-Unis du bourbier yéménite. Le vote pourrait en tout cas avoir lieu au mois de novembre. Il posera aux élus américains une question encore beaucoup plus vaste, nous dit Stephen Fraser. Quelle place pour l'Amérique dans le monde de l'après-guerre froide. L'auteur ne se fait pas trop d'illusions sur l'issue du vote, car voter contre une guerre en cours au Moyen-Orient pour les élus américains, ce serait risquer de paraître faible face au terrorisme et à l'Iran.
Et puis alors, on parle de la puissance militaire américaine, on en parle partout, y compris dans la presse polonaise ce matin, Camille.
Oui, plusieurs médias de Varsovie, dont la chaîne TVN 24, nous racontent cet impressionnant débarquement qui a eu lieu ces derniers jours, plus à l'ouest, en Belgique. 77 hélicoptères militaires américains, soit plus que tout ce que ne possède l'armée de l'air polonaise, acheminés en pièces détachées par bateau au port de Zeebrugge, où ils ont été assemblés dans une zone du port qui avait été transformée en forteresse derrière des murs de containers. Les appareils ont ensuite été rassemblés hier sur la base militaire de Chièvre, c'est à quelques kilomètres de la frontière française, toujours en Belgique. Et aujourd'hui, ils doivent décoller principalement vers l'Allemagne, la Lituanie, la Roumanie et la Pologne, car ces hélicoptères et les 360 soldats américains qui les accompagnent viennent remplacer et surtout renforcer la présence militaire de l'OTAN à l'est de l'Europe, aux frontières d'une Russie considérée plus que jamais comme une menace. Ce programme Resolve de l'OTAN, il dure depuis 9 mois dans la région, la relève était donc prévue, mais les Américains en ont fait une véritable démonstration de force, analyse TVN 24. Il faut voir l'image de ces dizaines d'hélicoptères de combat parfaitement alignés hier sur le tarmac belge. Les Polonais y ont vu une réminiscence de la guerre froide, de ces Elephant Walks, de ces marches d'éléphants, comme on surnommait les grandes manœuvres militaires américaines, tous avions en procession les uns derrière les autres pour impressionner encore et toujours l'ennemi.